Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir Ellie, 29 ans, qui est un sugar baby. Le sugar dating, ou l'hypergamie, est pour un individu, femme ou homme, le fait d'entretenir des relations avec un partenaire ou une partenaire plus âgée et d'un rang social plus élevé. Ellie est un jeune homme érudit, intelligent, qui manie très bien le verbe et qui va vous raconter son histoire. C'est un témoignage très intéressant, pudique et en même temps très sincère qui vous permettra, comme moi, d'en découvrir davantage sur un monde qui peut paraître un peu nébuleux. Je remercie Constance pour la mise en relation. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ce nouvel épisode, c'est avec Ellie que je suis. Ellie a 29 ans. Ça va, Ellie ?
Très bien, et toi ?
Oui.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
On a fait un petit point vocabulaire avant, parce qu'on va parler d'un sujet qui est très intéressant et qu'on n'a pas encore abordé dans le podcast, qui est le sugar dating. Mais avant de parler de tout ça, Ellie, est-ce que tu peux me dire, c'est la question que je pose à tous mes invités, quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité ou à l'érotisme le plus loin que tu te souviennes ?
Je pense que, comme beaucoup de petits garçons, cela remonte à l'adolescence et à la première masturbation.
Ah, ok.
Voilà.
Et t'as quel âge à peu près à ce moment-là ?
Je dois avoir 11 ou 12 ans.
Ok, donc pré-puberté.
Exactement, juste avant. Et je crois que c'était un après-midi. Et je regardais un film qui n'était pas nécessairement érotique ni porno, mais avec des scènes intéressantes.
D'amour.
D'amour, voilà. Exactement, et je m'y suis essayé.
Et ça, il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé quelque chose.
Très bien. Et on parlait de sexualité librement chez toi ?
Oui, toujours. Ça n'a jamais été un sujet tabou. Alors, bien évidemment, il y a toujours une question d'âge, savoir quoi dire et à quel âge, mais ça n'a jamais été tabou.
Ok, si tu avais des questions, donc tu es issu d'un couple mixte,
oui.
Tu es métisse. Papa, maman, les deux répondaient à tes questions ?
Oui, les deux répondaient à mes questions, ce qui était assez intéressant puisque mon père est quand même issu d'un environnement initialement islamique, mais il s'est défait de tout cela avec son parcours universitaire, et ma mère était française puisqu'elle est décédée maintenant, et oui, donc on n'a jamais eu de problème à parler de tout cela.
C'était sans tabou ?
Exactement.
Ok, donc quand tu as 11 ans, bon, par cet après-midi-là, tu sais ce qui se passe ?
Alors, pas nécessairement, puisque je n'avais pas posé les questions avant. Je ne m'y étais pas intéressé de la sorte. Mais non, je ne savais pas ce qui se passait, ni ce qui allait se passer, ni les ressentis qui ont eu lieu.
Ok. Et à l'école ou avec les copains, est-ce que vous parliez de sexualité ?
Oui, mais de manière assez grossière et puis assez caricaturale aussi.
Oui.
Avec ce qu'il se dit et ce qu'il est amplifié, en tout cas, pour bien paraître devant tout le monde.
Oui, pour être un garçon avec une bonne virilité.
Exactement.
Et tout ça. comment ça se passe, cette puberté, pour toi ?
Sans grand jalon, finalement. Ça se passe. Ça n'a pas été une puberté très sexualisée. Donc les choses se sont faites. C'est plutôt à partir de 18-19 ans que j'ai commencé à vraiment penser au sexe et puis commencer la pratique sexuelle.
Ok. Ton adolescence se passe comment ? Est-ce qu'il y a des flirts ? Est-ce qu'il y a des amourettes ? Comment tu évolues, toi, par rapport à ça, avec ce moment où les hormones sont quand même très présentes ?
Alors, tu parles de flirts très peu. Très très peu, puisque j'ai compris en tout cas mon homosexualité quand j'avais 13 ans, okay. Environ.
C'est quelque chose dont tu as parlé ?
À l'époque ?
Ouais.
Non, justement. Okay. J'ai eu cela pendant de très nombreuses années et je n'en ai parlé qu'en 2018, je crois,
oui, donc,
à ma meilleure amie.
Récemment donc.
Exactement, j'étais très longtemps en relation avec une femme.
D'accord.
Et j'ai décidé d'en parler pour me libérer un peu et pour commencer à explorer ce monde qui finalement est le mien depuis le départ, mais auquel je me résignais volontairement. Et donc non, pendant cette adolescence, ça a été très calme puisque j'étais assez tiraillé entre mes envies et ce qu'il ne fallait pas faire pour ne pas montrer qui
Alors,
j'étais.
Tu dis ce qu'il ne fallait pas faire parce que ton environnement familial ou social faisait que c'était compliqué d'être homosexuel? Parce qu'à 29 ans, enfin, tu vois, tu es pas né dans les années 70 ou 80, où bon, c'était, même si ça dépend les milieux, mais c'était pas toujours facile. Là, à 29 ans, on a envie de se dire qu'il y a encore une dizaine, quinzaine d'années, on pouvait quand même s'outer, comme on dit, plus facilement.
Je pense que oui. Mais je suis quelqu'un de très précautionneux, donc pour ne pas justement m'exposer à trop de risques, j'ai décidé de ne pas en parler.
D'accord. Donc tu passes cette adolescence finalement sans attachement particulier à une fille ou un garçon. Tu arrives dans bientôt donc le lycée, tu as 18 ans. Et comment va se passer ce début de vie sexuelle active ?
Alors, ce début de vie sexuelle va se passer avec la rencontre de mon ex-petite amie.
D'accord.
Avec qui ça s'est très bien passé, avec qui j'ai passé plus de 9 ans.
Ah oui, en effet.
Exactement, ça fait un jeune vieux couple.
C'est vrai. Mais tu lui as dit que tu étais homosexuel ?
Alors, à la fin, oui, bien sûr.
D'accord.
Je suis assez honnête, donc je joue la carte de l'honnêteté. Et je pense que pour elle aussi,
enfin,
c'est important de savoir.
Pendant 9 ans, pas trop.
Alors, je ressentais tout de même des choses, j'avais des sentiments, j'étais amoureux et j'étais attiré. Donc bon, je ne me qualifie pas de bi non plus, puisque je suis quand même honnête. Quand on est à 95-5, voilà.
D'accord. Et est-ce que c'est cette femme ou c'était parce que tu voulais être avec une femme ?
C'était finalement un concours de circonstances. On s'est rencontrés très jeunes et des liens se sont tissés. Et comme je l'explique souvent, il y a eu donc des liens amoureux, et il y a eu des liens intimes, et on s'est en même temps construit ensemble.
On avait grandi ensemble.
On a grandi ensemble, on s'est construit ensemble. Donc finalement, quand tu mélanges tout, je ne sais pas si c'est à 100% sain, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, et c'est avec ça qu'on a bien vécu.
Donc ça a été ta partenaire de vie, plus que juste une compagne, ça a été une vraie partenaire parce que vous avez, comme tu dis, grandi, vous avez, j'imagine, fait vos études ensemble en parallèle, commencé la vie active. Donc effectivement, il y avait beaucoup de choses qui vous construisaient l'un et l'autre. Donc oui, c'est une vraie partenaire que tu as eue pendant 9 ans.
Oui, exactement, une complice.
Ok, et la sexualité avec cette femme alors ?
Alors, la sexualité n'était pas toujours au beau fixe. Puisque bien évidemment...
Ça, c'est tous les couples.
Alors, ça, je peux bien le croire. Mais je dois quand même reconnaître que je n'avais pas le même appétit sexuel, en tout cas, que beaucoup de mes amis hétéros ont vis-à-vis de leur
copine. À ces âges-là, ouais,
exactement.
En plus.
Donc, de temps à autre, ça bloquait un peu. Mais cela dit, je pense que l'amour prenait le dessus.
Comment tu nourrissais, justement, ton homosexualité en parallèle ? Tu l'as vraiment silencée ? Ou est-ce que, du coup, tu regardais du porno ou tu t'autorisais peut-être des flirts ? Comment t'arrivais à jongler avec les deux ? Parce que c'est difficile quand même de taire sa nature.
Oui, alors comme tu le dis, je jonglais avec du porno, tout simplement. Okay. Ça me suffisait jusqu'au moment où ça ne me suffisait plus. Mais pendant longtemps, ça m'a suffi.
Donc tu avais ton jardin secret, ton imaginaire.
Oui.
Avec du porno, et puis cette vie avec cette jeune femme avec qui ça se passait très bien.
Exactement.
Et la rupture a eu lieu parce que tu avais envie de enfin vivre ton homosexualité ?
En partie, oui. Ouais. C'est ça. Alors, il faut avouer qu'à l'âge auquel on s'est rencontrés, avec tout ce que l'on a vécu, il y a quand même un moment où ça s'essouffle.
Vous aviez quoi, 15 ?
On s'est rencontrés à l'âge de 16 ans.
16 ans, c'est ça, ouais.
Voilà. Donc après tout ce qu'on a vécu, ce n'est pas qu'il n'y a plus rien à échanger ou à se dire, mais ça s'essouffle. Ça, je pense que c'est une réaction logique.
Oui, puis il y a des âges en plus où tu changes beaucoup.
Exactement, une évolution forte et rapide.
Oui, j'imagine.
Voilà.
Donc vous rompez.
Exactement.
Elle comprend.
Alors, ça s'est passé de manière plus graduelle que ça. Avant de rompre, on a décidé de... Donc je lui ai dit pour mon homosexualité et on a décidé d'entamer une relation ouverte. Finalement constitué une transition vers la fin.
Elle a été étonnée ?
Oui, à ma grande surprise, oui.
Ouais.
Puisque moi je sais que si je me regarde dans un miroir, je comprends tout de suite.
Ouais, c'est difficile, mais pourquoi tu dis ça ? Parce que tu penses que ça se voit ?
Oui. Bon, ça se voit, ça ne s'entend pas forcément, mais ça se voit. Et quand on me connaît un minimum par rapport à mes goûts, à certaines sensibilités, bon, sans vouloir rentrer dans les clichés,
bien sûr,
mais il y a quand même des détails qui ne trompent pas.
Bah, c'est vrai que t'es... Là, je vais essayer de un peu te décrire sans trop dévoiler, mais donc t'es un très bel homme. Bah c'est vrai, tu le sais, je pense.
Ah non, je ne le sais jamais.
Ah bah, je te le dis, alors t'es un très beau garçon. C'est vrai que t'as un super look, on sent que t'es un homme très soigné. Mais tu penses que c'est ça qui fait qu'on pourrait le voir ?
Pas nécessairement, puisque je n'ai pas toujours eu ce style-là. Ça fait quelques temps que je l'ai quand même, mais au départ, pas nécessairement. Donc c'est vraiment une question de ressenti. Et je sais que dans mon entourage, certaines personnes voient cela et d'autres pas du tout. Oui. Donc ça dépend aussi de chacun.
D'accord. Après, tu l'as dit facilement à tes proches, tes amis ?
Alors, je ne l'ai pas dit à tout le monde, hein, toujours D'accord. aujourd'hui. Il y a une petite partie de ma famille qui le sait, certains de mes amis, bon, beaucoup plus que ma famille. Mais je n'ai pas le besoin d'en parler, je n'ai pas le contexte, en tout cas relationnel, qui me pousse à en parler pour le moment.
Comme tu le disais, tu es assez précautionneux, donc autant faire des choses comme tu le sens aussi.
Exactement.
Je comprends. Donc effectivement, là, on fait un bond. Donc, t'as quoi ? T'as 25-26 ans quand tu te sépares de cette jeune femme ?
Oui, c'est ça, à peu près 26
ans. Très fort en calcul. Hein.
Je vois ça.
et là, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? T'as envie d'explorer cette homosexualité ?
Ah, exactement. Bah, écoute, je le fais, tout simplement.
Alors, comment tu commences ?
Alors, j'ai été titillé. Entre guillemets, puisque, alors sans dire ce que je fais, mais j'étais présent sur des salons. Et sur ces salons, bien évidemment,
contact
des personnes
facile.
Te regardent, viennent ouais. te parler. Et à un moment, tu te dis, bon, bah, c'est dommage de ne pas donner suite à ces propositions. Et finalement, grâce à cette période de relations libres, j'ai laissé libre cours à ma sexualité dans son intégralité. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir. La sexualité finalement, puisque avant cela je côtoyais hommes et femmes, mais pas dans des domaines similaires. Bon, on en parlera plus tard.
Ok, bien sûr. Juste pour revenir sur ta relation avec cette jeune femme, est-ce que tu avais le sentiment d'être toi-même quand même satisfait de cette sexualité?
Ah non, ce serait malhonnête de dire oui. D'accord. J'étais satisfait jusqu'à un certain niveau, mais certainement pas dans son intégralité.
Ce que tu peux vivre aujourd'hui quand tu passes du temps avec les hommes.
Exactement.
Et tu penses que ta compagne était satisfaite ?
Non plus. Non. C'est ce que je te disais, je pense que le tout a été noyé par l'amour véritable qui était présent, mais l'amour ne fait pas tout dans un couple.
Je suis d'accord. Sinon, c'est une belle amitié. Hein.
Exactement. Des bons potes.
On est d'accord. Ok, donc comment ça se passe la première fois que tu vas être dans l'intimité charnelle avec un homme ? Est-ce que... Parce que tu recommences un peu tout, en fait.
Alors oui. Je pense que j'ai eu de la chance, puisque la personne avec qui j'ai eu la première fois, ça a été un crush réciproque. Donc ça, je pense que c'est pas mal, puisqu'il y a quand même un échange de sentiments, il y a quand même un contexte d'intimité. Mmh. Et ça s'est fait naturellement... sans blocage, sans tabou.
Et dans ta tête, il s'est passé quoi ?
Ah bah, le mot libération retentissait, évidemment. C'est ce que tu allais entendre, vous voulez entendre, le voici.
Ça y est.
Yes.
Ah ouais, et donc ça, c'est ouais, je pense que ça a dû le dire avec un grand sourire. Ça a été un moment de...
Oui, bah exactement. Et okay. puis cette libération, après, c'est matérialisé par d'autres moments, d'autres personnes. Mais ça a commencé première fois.
Ce premier amant, tu l'as eu, t'avais quel âge ?
26 ans.
Tu commences avec ce crush et après, comment ça va se passer, cette continuité de relation libre ? Et puis, quelques temps après, assez rapidement après, si je comprends bien, tu termines ton histoire avec ta compagne.
Exactement. Alors, j'en profite justement pour découvrir. Donc, je fais quelques autres rencontres. Et après un an de relation libre, c'est mon ex-copine qui me contacte en me disant voilà qu'elle ne peut plus, et ce que je comprends parfaitement. Hein.
Et elle, de son côté aussi, elle voyait d'autres amants ?
Oui.
Okay. Donc elle était pas...
Donc c'était pas non plus déséquilibré à ce point-là, mais on n'avait pas la même position en tout cas.
Oui, ça lui convenait plus en tout cas.
Non, pas du tout.
Ok, c'est déjà chouette qu'elle t'ait accompagnée aussi dedans.
Oui.
Ok. Et elle s'est pas posé la question si c'était viable sur le long terme ?
Je pense que... Par amour, à nouveau, il y avait un aveuglement sur la réalité de la situation. Parce que, on le sait, ce n'est pas viable. C'est alors, je ne dis pas que la relation ouverte n'est pas viable. Hein. Je dis que la mienne, en tout cas, dans cette configuration, ne l'était pas. Donc ça, on pouvait s'en apercevoir. Mais il fallait quand même s'y essayer pour, par miracle, sauver la relation. Mais voilà, ça relevait du miracle.
Puis comme tu dis, c'est transitionnel aussi. Je pense que là, ça aurait été très difficile pour vous d'arracher tout d'un coup. Là, effectivement, il y a eu des paliers.
Exactement.
Tu vois, on va dire d'éloignement, si
oui.
Tu vois.
Donc, surtout qu'il y avait également un éloignement géographique qui allait entrer en compte.
Oui, bon.
Donc voilà, pas mal de facteurs.
Ok. Donc tu rentres dans cette nouvelle sexualité, donc avec appétit, avec envie, et puis surtout, j'imagine, conforté. Parce que même si c'était... bon, j'imagine, tu as l'air d'être un garçon plutôt intelligent qui mesure les choses, mais... Sans avoir vécu ça, peut-être que...
Oui, j'aurais pu éventuellement être déçu.
Déçu,
ou...
exactement.
Exactement. Non, parce que je suis assez honnête envers moi-même. Donc je sais, finalement, quand je décide en tout cas de l'être, je sais ce qui est bon pour moi ou mauvais pour moi. Et voilà. Donc je savais très bien, hein, dès le départ, que c'était moi. Hein. Donc je ne m'attendais pas à être déçu, mis à part par les caractéristiques techniques du moment, mais ça,
mais
c'est
ça,
un autre sujet.
Tant qu'on n'y est pas, on ne sait pas. Hein.
Exactement.
ok, donc tu en plus vis ça dans une grande ville.
Oui.
Donc tu as la possibilité de voir plusieurs partenaires et en tout cas de rencontrer plusieurs hommes.
Oui.
Et à ce moment-là, c'est comment ça se passe dans ta vie? C'est genre full access ou tu restes quand même assez mesuré?
Non, ça n'a jamais été full access parce que j'accorde une très grande importance au relationnel.
Oui.
Alors, avoir un rapport sexuel pour avoir un rapport sexuel, je ne vois pas trop l'utilité. Maintenant, certaines personnes en ont besoin, c'est autre chose. Mais non, je tiens à tisser un minimum de liens avec les personnes qui sont sur mon chemin, finalement.
Comment tu arrives à tisser cette intimité, ce lien?
Ah bah, c'est ce que l'on appelle le feeling, en fait. Okay. Ce n'est pas à moi de faire quelque chose. C'est si ça se fait des deux côtés.
D'accord, mais c'est important pour toi.
Ah oui.
Tu as ce parcours-là, j'imagine que tu es assez épanoui dans cette sexualité-là.
Mmh.
Comment tu arrives, ce dont tu me parlais tout à l'heure, à rentrer dans un milieu et devenir, dans un premier temps, homme de compagnie?
Alors, eh bien, à nouveau, on en revient à ce fameux salon sur lequel pas mal d'opportunités se
donc,
sont présentées, vois-tu?
Vivement que les salons rouvrent.
Absolument, plus que les bars et les restos.
Finalement.
Mais oui, finalement, parce que pour moi, l'âge n'a pas d'importance. Donc du tout dans un sens. Après, au niveau physique, bon,
bien sûr.
Il faut pouvoir.
Oui, après, ça veut rien dire. Il y a des hommes de 35 ans qui sont font pas attention à eux et qui sont qui ont pas de bonnes conditions physiques, et des messieurs qui ont 55, 60 ans qui peuvent être, enfin, qui ont des corps incroyables parce qu'ils sont sportifs, ils font attention à ce qu'ils mangent.
Oui, alors c'est pas nécessairement axé sur le physique non plus, hein, mais c'est vraiment un état d'esprit, puisque voilà, j'en reviens à ce salon où j'ai rencontré un homme de 70 ans. Donc il y avait quand même à l'époque
une
légère différence, une nuance d'âge, mais avec qui bah, justement le courant est passé, il y a une connexion. Et alors c'était pas du tout une relation d'homme de compagnie, hein. Mais cette personne avait beaucoup d'argent, avait une grande maison à Londres, etc. Donc de fil en aiguille, puisque je pense qu'à cet âge-là, on a quand même un recul qui est incomparable avec toute l'expérience de vie. Et il me voyait en face, donc de fil en aiguille, il m'a aussi mis en relation avec des amis, et c'est par ce biais-là que j'ai commencé à être homme de compagnie, finalement.
Donc avec cet homme, c'est quoi? Il y a un jeu de séduction qui s'installe?
Oui, au départ, oui.
Tu y réponds?
J'y réponds. Ensuite, il y a une intimité qui se crée, puisqu'on on se voit.
Vous avez une intimité charnelle qui se crée?
Aussi, oui.
Donc tu deviens son amant?
Oui.
Et c'est là où effectivement lui te fait rentrer dans, enfin en tout cas t'invite à découvrir peut-être le statut d'homme de compagnie.
Oui, en partie. Alors, je ne le conçois pas avec lui, mais c'est en partie ce qu'il s'est fait. Puisque de par son statut et de par ses moyens financiers...
La différence d'âge,
voilà, j'avais accès à des environnements auxquels je n'avais pas accès avant.
Des discussions,
des
j'imagine.
Des discussions, des échanges intellectuels qui étaient stimulants à souhait. Et puis au-delà de ça, il y avait le matériel aussi, des sorties, quelques voyages. Mais pour moi, ça restait un amant. C'était en aucun cas, je n'étais pas homme de compagnie pour lui.
Tu connaissais, avant qu'il t'en parle... ce statut?
En partie oui, puisque j'ai pas eu une enfance inconfortable, donc oui, je connaissais ce statut, mais pas dans ce contexte-là.
D'accord.
C'était différent. C'est-à-dire que j'étais plus jeune et j'étais enfant quand j'ai eu accès à ces milieux-là.
D'accord.
Et là, j'avais mon autonomie, donc je n'avais plus autant de facilité qu'avant et j'y pénétrais à nouveau par une autre porte.
Et donc, du coup, tu as rapproché des choses.
Peut-être.
D'accord. Lui, t'en parle et comment ça se fait ? Disons que c'est une notion qui est assez impalpable. Comment tu vas commencer à devenir homme de compagnie ? Comment ce deal se fait avec ces hommes ? Comment tu les appelles, justement ?
Ah bah, je ne les qualifie pas.
D'accord.
Je ne les qualifie pas puisque, pour moi, hein, je pense que c'est la définition globale, mais homme de compagnie, c'est, si ça ne l'est pas, mais en tout cas, c'est à la limite du confident, finalement. Donc, c'est une relation à la fois amicale très profonde, c'est une relation qui dérive aussi sur le charnel de temps à autre, mais pas nécessairement.
Oui, c'est ce que tu disais, c'est pas automatique.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ça peut être un accompagnement, en fait. Un accompagnement physique par la présence. Ça peut être un accompagnement intellectuel par des échanges poussés. Ça peut être pas mal de choses.
Donc toi, ça te demande aussi quand même un challenging intellectuel constant.
Oui.
Pour être à la hauteur de discussions politiques, philosophiques, théologiques, tout ce que tu veux.
Oui.
Il faut quand même aussi que tu te nourrisses.
Bah, il faut se nourrir, mais je pense que si on n'a pas un bagage existant, c'est un
Bien
peu
sûr.
Compliqué.
Ah oui, j'imagine aussi.
Voilà, ça j'en suis conscient. Je sais que j'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement intellectuel.
De faire des études.
Et d'avoir accès à certaines informations, de savoir où aller les chercher et de disposer d'un certain savoir. Donc c'est sans prétention, j'espère que ça ne sonne pas comme tel. Mais
c'est un fait.
Et grâce à cela, justement, j'ai pu me hisser dans ces milieux-là et rencontrer des personnes avec qui il y avait des échanges très très intéressants.
On est d'accord que ce deal quand même se base aussi sur ta plastique.
Alors
si t'étais moche.
Si j'étais moche, peut-être que je le suis pour certains, tu ne sais pas.
On est toujours le moche de quelqu'un, je suis d'accord avec toi, mais globalement...
Alors, en partie oui, puisqu'il y a aussi une certaine attirance physique. Quand je te dis qu'il n'y a pas de rapport charnel, ça n'exclut pas l'attirance physique finalement.
D'accord.
Donc oui, je pense que je plaisais et que ça influait en tout cas sur la situation.
Donc ces hommes en partie ont quel âge ?
Entre 50 et 70.
D'accord. Ce sont des relations qui vont durer combien de temps ? Est-ce que c'est des relations plurielles ? Tu peux avoir plusieurs amis ? Alors, je ne sais pas comment on peut dire, compagnons
Oui, alors on peut rester sur le terme d'amis.
Parce
que c'est ce qui qualifie quand même bien la relation. Alors, pluriel, oui. Parce qu'on a tous plusieurs amis.
Bien sûr.
Voilà. et même aujourd'hui, beaucoup ont des sex friends hein, qui restent des amis avec plus. Mais donc oui, c'est un contexte amical, donc bien sûr, plusieurs amis.
Et concrètement, tu fais partie de leur quotidien, quelques jours, quelques heures, pour un dîner, une expo, juste un moment entre vous deux. Est-ce qu'il y a une transaction matérielle, financière ?
Oui, forcément. Il y a cette transaction, mais cette transaction n'est pas vraiment une transaction. On évoquera forcément le terme transactionnel plus tard dans ce qu'on évoquera, mais dans ce contexte-là, c'est un échange. En fait, c'est plus une transmission. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont à un certain stade de leur vie, qui ont donc ce recul, et qui, par en tout cas le rapport que nous avons, prennent un grand plaisir à partager et à aider la personne qui est en face. Voilà.
Okay.
Donc je n'ai pas à demander, à montrer, ou en tout cas à
suggérer que...
Exactement. Okay. Finalement... on échange et de par ce qui est dit, d'autres échanges se font finalement.
C'est assez évident.
C'est assez évident. C'est pour ça qu'on parle plus d'une relation amicale finalement.
Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu parlais effectivement de l'échange que tu avais, pas si longtemps que ça sur l'échelle de l'humanité, mais les dames de compagnie, tu vois, étaient très en vue dans certaines sociétés.
Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on évoque le statut d'homme de compagnie, ce genre de relation s'est perçu de manière très vieillotte. Parce qu'on pense tout de suite justement aux époques de haute bourgeoisie, ces époques qui ne sont plus vraiment aujourd'hui, en tout cas qui sont plus cachées. Mais oui, c'est une relation qui est très intéressante et qui a sa place finalement dans notre société, puisqu'il y a quand même un manque chez beaucoup de personnes qui évoluent dans des hautes sphères, comme on l'évoquait, qui ont peut-être du mal à se constituer un noyau d'intimité.
Oui, c'est ce que tu me disais, ces gens-là sont souvent très, très seuls.
Oui, Absolument.
Et le fait de choisir son ami,
oui,
finalement, leur assure au moins une certaine honnêteté émotionnelle.
Exactement.
Là où ils pourraient être peut-être trompés.
Exactement.
Par des gens qui ont des intentions moins, en tout cas, sincères.
Oui. Alors, je ne veux pas non plus dire que c'est un monde de bisounours, parce qu'il y a aussi des personnes qui le font avec l'intention de... Enfin, avec de mauvaises intentions.
Bien sûr.
Ça existe aussi.
Mais au moins, le deal est transparent.
Implicitement transparent, oui.
Donc, tu es homme de compagnie quelque temps.
Oui. Toi, toujours aujourd'hui.
Toujours aujourd'hui. Oui. Tu évolues donc avec ces hommes qui te nourrissent et à qui tu apportes ta charmante compagnie.
Alors, quelques femmes aussi.
Et quelques femmes.
Quelques femmes aussi. C'est pour ça qu'au départ, quand je te parlais de ma sexualité, je te disais qu'avant ma première relation avec un homme, je fréquentais aussi hommes et femmes. C'était dans ce contexte-là.
D'accord.
Donc, je fréquentais des hommes avant, mais pas dans un contexte sexuel.
Voilà. D'accord.
Donc, et homme de compagnie, c'est aussi fait avec quelques femmes, puisque ça reste la même démarche amicale, donc il n'y a pas barrière sexuelle.
Et des femmes, pareil, d'âge avancé.
Oui.
Qui sont aussi seuls.
Exactement.
Et qui avaient envie de parler à un beau jeune homme.
Voilà, partager un bon repas, un week-end.
Et puis j'imagine qu'en plus, ta fraîcheur aussi apporte quelque chose à ces gens.
Oui, c'est vrai que ça leur permet aussi de relativiser sur la société actuelle, puisque ma génération fait que je les informe en étant dans cette situation de ce qu'il se passe.
Oui, parce qu'ils sont un peu dans des tours d'ivoire finalement.
Quelque part, oui.
Et c'est vrai que j'aime à croire que quand on a l'âge de ses artères, on n'a pas forcément, tu vois, le cœur peut rester jeune et la tête aussi, mais s'entourer de jeunes gens, bah voilà, tu gardes quand même aussi, tu vois, un pied dans une dynamisme.
Oui.
Je comprends. Pendant quelques temps, tu es donc cet homme de compagnie de femmes et d'hommes. Tu arrives à jongler avec une vie professionnelle.
Oui, complètement.
Oui, ça empiète pas trop.
Ah non, pas du tout.
Très bien. Oui, c'est comme voir des amis finalement.
Exactement, tu vois. On en revient toujours à la même relation.
Finalement, c'est ça. On arrive à avoir des amis, bon, c'est très bien. Et à un moment donné, il y a pas si longtemps, tu vas pousser un peu cette envie de chercher d'autres choses et d'assouvir une curiosité ailleurs.
Exactement. Oui, puisque je suis quelqu'un de très curieux et ça s'est fait un peu par hasard en même temps, c'est-à-dire que j'adore la découverte, mais je ne me voyais pas en tout cas me lancer dans le sugar dating, donc c'est ce que je vais évoquer. Et au cours d'une conversation avec une amie, on en est venu à en parler.
Oui, tu me disais que c'était un concours de circonstances.
C'était un concours de circonstances. On ne savait pas du tout que nous en avions envie réciproquement. Alors, elle, côté hétéro, et moi, côté homosexuel. Et une amie à elle le faisait déjà. Donc, elle lui a donné l'application qui est Seeking Arrangement. Et on s'est inscrits tous les deux sur cette application.
OK.
Et on a débuté cette aventure ensemble. Donc, le duo.
Et alors, comment ça se passe concrètement? Tu remplis, donc j'imagine, une fiche.
Oui, alors c'est une application qui est très bien faite parce que, tout d'abord, elle est faite pour ça. Donc Seeking est fait pour le sugar dating. Donc
d'accord,
c'est clair, c'est net, exactement.
C'est une appli américaine, tu me disais.
Oui, c'est américain. Donc aucun quiproquo, on sait à quoi s'attendre, on sait pourquoi les gens sont là. Donc ça, c'est déjà quelque chose de bien. Et au-delà de ça, il y a quand même un profil à créer, un profil qui permet de mieux comprendre la personne qui est en face. Il y a des critères financiers aussi.
Alors,
qui sont mentionnés.
Comment ça se passe, ces critères financiers?
Alors, c'est très succinct. Hein. C'est simplement renseigner ton revenu et ton patrimoine, semble-t-il. Bon, je pense que beaucoup de personnes faussent un peu les informations.
On ne sait jamais si il y a un huissier dans le coin.
Exactement, parce que des fois, c'est un peu mirobolant ou alors à l'inverse, c'est assez dérisoire.
Ok.
Mais ça fait partie du jeu, en tout cas.
Oui.
Même si l'information est fausse, elle apparaît. Voilà. Et au-delà de ça, une fois que ton profil est créé, tu peux démarcher ou en tout cas tu es contacté.
D'accord. Et voilà. Donc toi, c'est ton cas, tu es contacté.
Alors les deux, j'ai aussi entrepris des démarches parce que en vadrouillant sur les différents profils, il y en a quand même qui semblent intéressants. Donc tu discutes, la personne répond, ne répond pas.
Donc
mais...
là, c'est plus du matching, un peu comme on imagine, quoi, on connaît.
Oui, c'est ça.
C'est ça, on flirte, on...
Exactement.
On
en fait, c'est une application de matching sur fond de sugar dating. C'est-à-dire qu'on sait que derrière, il va y avoir des contreparties.
D'accord. Alors, quelles sont-elles, ces contreparties?
Elles sont multiples. Elles sont multiples. Bien sûr, l'argent, puisque ça, c'est la réponse que tout le monde attend. Donc, évidemment, hein, ne faisons
le
pas...
Le public est en liesse. Oui, il l'a dit.
Exactement. Donc ça, oui, ça en fait partie. Mais au-delà de ça, après, tout dépend de la démarche de chacun. C'est-à-dire que moi, étant homme de compagnie, ce que je recherche avant tout, c'est la connexion, c'est l'échange...
Intellectuel. Spirituel.
Si c'est le cas, oui, okay. Tout est bienvenu. Mais tout ce qui, en tout cas, s'élève au-dessus d'un simple statut financier.
D'accord.
Voilà, ça, c'est important. Mais bon, comme je le dis, c'est en fonction de chacun.
Tu ne fermes pas la porte s'il y a une connexion émotionnelle qui arrive.
Alors, ça, c'est différent. Disons que je ne suis pas prédisposé à. Alors, on ne contrôle jamais rien.
Évidemment.
Voilà. Mais je ne suis pas prédisposé à.
Mais tu ne cherches pas.
Ah non, pas du tout. Ah non, ça ne fait pas partie de ma démarche.
Démarche, c'est vraiment ces connexions-là et cet échange que tu peux avoir avec ces hommes.
Je reprends ton terme, tu dis émotionnel, peut-être. Mm-hmm. Oui, alors ça peut faire partie de ma démarche, mais sentimental, non. À nouveau, c'est différent. Je ne veux pas entrer dans un jeu...
Tu as raison, c'est ça. Je voulais dire sentimental, effectivement. Émotionnel, tu as raison.
Il en faut des émotions pour une connexion,
mais
je pense.
Sentimental, c'est quelque chose que tu as un peu verrouillé.
Oui.
Dans cette démarche.
Exactement.
Je comprends.
Exactement.
Et donc aujourd'hui comment tu vis ça? Donc est-ce que le dating fait partie de ta sexualité?
Alors qu'est-ce que tu entends par cela?
Est-ce que aujourd'hui quand tu as des échanges avec ces hommes-là et que donc tu es passé du statut de homme de compagnie que tu fais toujours mais au sugar, donc ce qu'on appelle, alors moi je trouve que c'est un peu tacky, tu vois, sugar baby.
Oui, de même, mais bon, c'est le terme qui est employé
c'est
aujourd'hui.
C'est le terme, c'est un peu kitschou, quoi.
Oui.
Mais ta vie intime n'est qu'avec ce genre d'homme?
Ah non, pas du tout.
Tu as en parallèle une vie sexuelle
oui.
que tu alimentes avec tes rencontres.
Exactement.
Sur des salons ou pas.
Exactement. Ah non, c'est vraiment deux choses différentes.
Okay.
Ce n'est pas une communauté, je me
permets. Ouais, non mais t'as raison.
Voilà, mais c'est plus une activité finalement.
Pour toi, c'est une activité.
Oui, c'est une activité de plaisir,
mm-hmm.
Mais ça reste une activité finalement.
Et ce que tu me disais qui était intéressant, parce qu'effectivement, avant qu'on enregistre, j'avais besoin quand même bien de comprendre la différence, comme tu me disais, entre homme de compagnie, escorting, le sugar dating qui s'apparente à de l'escorting,
mm-hmm.
Qui fait un peu partie, on va dire... qui ont un peu leurs mêmes racines, donc c'est-à-dire dans des sphères très aisées, avec des gens d'un milieu avancé, avec des codes bien à eux, et la prostitution qui est très différente.
Oui.
Où là, c'est un échange physique.
Oui.
Et une prestation sexuelle basique.
Exactement. Bah, alors, pour reprendre ce que tu dis, oui, pour moi, il y a quatre niveaux, finalement. Tu as la prostitution, qui est à la fois purement transactionnelle, qui se fait... dans des environnements, dans des contextes que l'on connaît. Au-delà de ça, tu as l'escorting, qui est finalement une forme de prostitution plus.
Mm-hmm.
Pour moi, l'escorting fait aussi office de prestations, en tout cas.
Okay.
Mais dans des sphères qui commencent déjà à être assez différentes, avec des prix qui sont différents, des personnes que tu peux convier à des événements mondains, avec qui tu peux partager des moments un peu plus officiels, publics.
Tu contextualises un peu plus la prestation physique.
Exactement.
Ouais, je comprends.
Exactement. Donc ça, on élargit les frontières finalement avec l'escorting. Ensuite, tu as le sugar dating, qui là devient assez différent puisque on reste, enfin en tout cas, on débute dans ces sphères élevées pour monter encore dans des sphères un peu plus hautes.
Mmh.
Et là, avec le sugar dating, le but, c'est vraiment de créer un lien. C'est la différence avec l'escorting. L'escorting, tu peux voir la personne 1, 2, 3, 15 fois, mais le but n'est pas nécessairement de créer un lien. Alors que le sugar dating...
De la faire rentrer dans ta vie, en tout cas.
Alors, c'est un peu fort de dire faire rentrer dans ta vie, parce que ta vie est quand même à côté. Ça, ça reste une activité en parallèle.
Je parle plus pour les messieurs qui te font rentrer dans leur vie.
Ah oui, pardon, en face. Oui, ouais. Un peu plus, exactement.
Je n'ose pas dire les clients.
Non, ce ne sont pas des clients.
Voilà, c'est pas des clients.
Non.
Donc je dis ces messieurs.
Pour moi, les clients s'arrêtent à l'escorting.
C'est ça.
Voilà.
C'est pour ça que
prostitution, escorting, client. Au-delà de ça, ça devient des relations difficilement qualifiables, mais pas vraiment des clients.
C'est ça.
C'est pas parce qu'il y a un échange financier ou autre que ce sont des clients.
Mais ces messieurs, en tout cas, ils te font eux davantage rentrer dans leur vie, même si toi tu mets effectivement une limite.
Oui.
Parce que ta vie est privée.
Oui.
Tu rentres quand même dans la leur.
Exactement.
Et tu acceptes leur intimité,
aussi.
Ce que toi ce qu'il n'y a pas dans l'autre sens.
Mm-hmm.
Ok. Et donc, comment concrètement tu gagnes au-delà de l'échange et au-delà du partage que tu peux avoir avec ces messieurs? Qu'est-ce que tu gagnes en échange?
En faisant du sugar dating? Ah bah, tu as dit au-delà de quoi? De l'échange intellectuel? On en revient à dire que ça dépend de chacun, finalement.
Donc ça peut être des cadeaux?
Oui, ça peut être des cadeaux, ça peut être de l'argent, ça peut être... Mais voilà, tu gagnes surtout en expérience de vie, en fait. Tu t'ouvres à différents horizons, tu pénètres des sphères qui sont différentes des tiennes initialement, et tu découvres la vie d'une autre manière.
Qu'est-ce que, même si c'est hyper difficile de résumer, mais qu'est-ce que tu penses avoir appris à travers ces hommes?
Ah bah, tu ne peux pas résumer...
Je sais.
Non. Donc tu avais la réponse. Non, mais finalement, c'est des pas mal de choses à droite, à gauche. C'est le partage d'expérience aussi, finalement.
Et tu penses pas que avec des gens de ton âge, de ton environnement, tu pourrais aussi grandir d'une autre façon avec eux?
C'est pour ça que on a quand même des amis à côté. Évidemment. Enfin, le sugar dating ou homme de compagnie n'est pas l'intégralité de ma vie. Donc oui, j'ai finalement ma vie de base avec mes amis, ma famille, et à côté j'ai cette activité qui me permet de découvrir d'autres choses.
T'as l'impression parfois d'avoir deux vies?
Non. J'ai une vie avec qui est bien scindée.
D'accord.
C'est différent. Je n'ai pas deux vies, non.
Est-ce que donc, du coup, alors là on va rentrer un peu plus dans la sexualité, quand tu es avec ces messieurs, moi quand tu me parles, j'ai l'impression aussi que chez toi il y a une forme de sapiosexualité.
Ce terme.
Ouais, non, t'aimes pas.
Ce terme.
T'as souri, tu as en vu même mes temps, yeux, hein, tes yeux se sont durcis.
Les griffes sortent du sourire.
Je n'arrive pas à lire cette expression. Non.
Alors oui, ce terme, bon, on va dire oui.
Oui.
Mais je n'aime
c'est
pas ce
c'est
terme.
De faire plaisir.
je t'en prie, je suis là pour ça. Non, mais finalement, c'est à nouveau entrer dans des cases.
Ouais.
Voilà, c'est ce qui me dérange. Et il y a pas de, je n'ai pas ces cases là de sapiosexualité. Je suis stimulé par l'intellect. Voilà. Donc ça correspond à cette définition
c'est
de sapiosexualité. Mais je ne veux pas que ce soit défini finalement.
D'accord.
C'est ça la
c'est
différence.
Ton mode de fonctionnement.
Exactement.
Tu l'as dit plus tôt et même avant que tu sois homme de compagnie ou autre, on sent que pour toi la connexion est primordiale.
Ah mais alors la connexion et l'échange intellectuel. Enfin,
oui,
pour moi le fait de faire bouillonner mon cerveau, c'est de la folie. Mm. Et je pense que l'un des plus beaux échanges que j'ai eu de ma vie était avec quelqu'un que j'ai rencontré et qui est autiste Asperger.
Ah ok.
Voilà, donc déjà c'est une rencontre assez incongrue. Et là, mon cerveau était en ébullition et c'était génial. C'était génial.
Est-ce que forcément l'échange va créer chez toi du désir intellectuel?
Ah, intellectuel, oui. Mm-hmm. Mais cette excitation, en tout cas cérébrale, ne va pas forcément se traduire par une excitation charnelle.
D'accord.
Voilà, okay. C'est une autre forme de plaisir.
Mm-hmm, j'entends. C'est super.
Bah oui, on peut se contenter d'autre chose.
D'avoir... Il y a un de mes invités qui l'avait dit, je crois que j'en avais fait l'exergue. Est-ce que l'organe le plus érogène n'est-il pas le cerveau?
Oui.
Et c'était Olivier qui est un monsieur d'une cinquantaine d'années, mm-hmm, et qui effectivement avait posé la question, qui était intéressante.
Oui, bonne question. Je ne sais pas si je dirais oui. Mais ça en fait partie. C'est une autre zone érogène.
C'est une autre zone érogène, je comprends bien. Et donc, quand tu es avec ces messieurs et que potentiellement il peut y avoir un rapport charnel, est-ce que l'âge, est-ce que le corps qui a évolué dans le temps est quelque chose qui. Parce qu'il y a des hommes pour qui ça pourrait être compliqué. Mm-hmm. Est-ce que tu deals avec ça? Est-ce que ça fait partie. Est-ce que ça peut te freiner? Est-ce que dans ces moments-là, Tu peux toi-même dire non, finalement, ce corps ne m'excite pas, au sens vraiment stricto sensus du terme.
Mm-hmm. Alors, si on repart sur le fait que tout commence avec une connexion, tu as déjà cette partie qui prend quand même de la place dans ta considération de la relation. Mm-hmm. Donc, l'aspect physique qui arrive après, pour moi, revêt une certaine importance, mais n'est pas... ne va pas faire capoter tout, finalement. Alors, j'ai mes limites, évidemment, surtout en termes d'hygiène, Voilà.
La base.
Bon, après, il y a des pratiques qui se font
oui.
et d'autres, voilà.
Tout se prépare.
Exactement. Mais voilà, chacun ses limites. Mais que la personne soit fit ou bien plus trapue ou peu m'importe finalement, puisqu'il y a déjà une connexion. Maintenant, il est vrai que ça ne va pas avoir le même impact en termes d'excitation sur moi. Ça, il faut être honnête.
Oui, mais ça, après, c'est effectivement physiologiquement, c'est ton corps et tu peux pas le... Même si voilà, ton cerveau prend beaucoup de place, tu ne peux pas commander non plus.
Non.
Ok.
Je ne veux pas commander.
Et dans la vie, dans tes autres activités, est-ce que tu vas aller vers des... Tu as un type d'homme ?
Pas nécessairement. Non, non. Je n'ai pas un type d'homme. Alors, j'ai peut-être des profils qui me déplaisent un peu plus, mais ça reste purement visuel, physique, finalement. Mmh. Donc, si cette étape est passée et que derrière... je suis agréablement surpris, pourquoi pas.
Et comment t'arrives à trouver ces hommes pour échanger? Parce qu'on est quand même dans une société où tout va très vite, les applis, etc., ça peut aller vite. Enfin, tu vois, on prend moins le temps, comme tu le fais là, de parler, de choisir ses mots, d'avoir quand même cet intérêt pour la conversation. On est moins hors les activités de sugar dating, où effectivement, j'imagine qu'une des pièces maîtresses, c'est de prendre le temps.
Oui.
De se parler,
oui.
Ce qui est quand même hyper rare.
Oui.
Mais du coup, voilà, au quotidien, quand tu rencontres des hommes, comment tu arrives à évaluer ? Parce que tu prends moins ce temps. Enfin, en tout cas, la société est compliquée de prendre ce temps, que ce soit dans un bar, un resto ou un salon.
Oui.
Comment tu arrives à draguer ou à te faire draguer ?
Alors là, tu fais référence au contexte de sugar dating ?
Non. À ton contexte, hors sugar dating.
Hors sugar dating.
Non, parce que sugar dating, les gens savent qu'ils sont là,
voilà,
pour ça.
Voilà, c'est pour ça.
Donc, ils prennent ce temps.
Exactement.
Puisqu'en fait, comme tu le dis, c'est une activité où tu te dis, là, je me conditionne pour échanger.
Oui.
Mais quand tu es dans un salon, tu bosses. Tu n'as pas forcément, tu vois, le temps de prendre ce temps.
Oui.
Ou quand tu es dans un café ou bar, resto, et que tu vois un joli garçon ou qu'un joli garçon te trouve joli, enfin, peu importe, comment tu arrives à connecter ?
Alors, quand tu dis on n'a pas le temps, je ne sais pas si je suis d'accord. Tout va très vite et on est très pris, oui. Mais je pense qu'on peut quand même trouver le temps,
d'accord,
finalement. Et c'est en cela que j'arrive à échanger et à évaluer la personne qui est en face de moi.
Okay.
C'est-à-dire qu'il y a donc quelque chose qui se passe, un échange bref, et derrière, on pousse un peu la discussion.
D'accord. Donc, tu arrives quand même à... J'irais à scanner assez vite.
Oui.
Ok.
Oui, oui. Mais après, pour être quelqu'un d'assez old school, puisque je suis complètement absent des réseaux sociaux.
C'est vrai, pas du tout.
Non, pas du tout.
Ok.
Voilà. Donc, j'aime prendre le temps, finalement.
C'est vrai qu'à la fois, t'es très moderne, et en même temps, on a l'impression qu'on t'a catapulté dans cette époque. Je sais pas si c'est mon ressenti, en tout cas.
D'accord.
Il y a quelque chose à la fois de... T'es très moderne, tu vois, tu sens que t'es un garçon très connecté dans la vie, mais qu'en même temps, on pourrait te mettre dans les années 20, tu serais bien, dans les années 80, tu serais bien. Enfin, y a un truc chez toi, tu vois, de... Je sais pas, de...
Intemporel.
Ouais, assez intemporel. Okay. Je trouve que c'est ce qui se ressent chez toi, en tout cas. Parce qu'à 29 ans, t'as à la fois cette fraîcheur et en même temps une forme de maturité. Et comment tu l'expliques, ça ? Est-ce que c'est ces échanges qui t'ont... Tu penses...
Non.
Non,
ça je sais que non. Ces échanges ont participé à tout cela, mais je pense que de par mon vécu et de par l'environnement dans lequel j'ai évolué aussi, j'ai été très tôt confronté soit à des situations de responsabilité qui au départ ne devaient pas m'incomber, ou alors j'ai pu bénéficier en tout cas de situations où je me suis enrichi au niveau intellectuel.
Oui, tu disais que t'as perdu ta maman, donc j'imagine aussi que ça a été une étape dans ta vie, au-delà de la douleur, mais une forme de maturité qui a dû te...
Ça accélère finalement la construction.
Bien sûr, bien sûr. Ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est quel est le regard justement que tu as sur la... Alors je sais que le mot, bon, la communauté gay aujourd'hui, et sur les milieux qui sont... Même si je sens que tu es quelqu'un d'extrêmement tolérant et que chacun fait tant que ça déborde pas sur
l'autre. Tant que ça ne nous embête pas.
Exactement. Mais ces milieux BDSM où finalement là c'est vraiment le rapport physique, tu vois, qui prime sur la communauté gay ou même pas forcément. Mais comment tu vois, quel est le regard que tu as sur les autres formes de sexualité, les autres orientations, les types, les pratiques ?
Alors. On me demande souvent quel est ton défaut ou quels sont tes défauts. Mon premier défaut, qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de me demander, et l'impatience. Ça, c'est une chose.
Alors, les gens intelligents sont souvent très impatients.
Ah, je suis flatté et rassuré de l'être dans ce cas-là.
Ils ont déjà le coup d'avance. Donc, ils ne comprennent pas que toi, tu sois encore en arrière, alors qu'ils sont déjà devant.
D'accord.
Et l'impatience est vraiment le défaut des gens très intelligents.
Bon, je le note et je me renseignerai d'ailleurs. Je vais bien dormir ce soir. Merci, je reviens te voir quand. Mais oui, donc ça c'est une chose. Et au-delà de ça, mon autre défaut, alors je ne sais pas si c'est un défaut, mais des fois je suis peut-être un peu trop ouvert d'esprit. C'est-à-dire que je tolère des choses qui peuvent être considérées comme immorales, comme vicieuses. Alors non pas que je les pratique ou que je m'y adonne, mais ça ne me dérange pas que ça existe à côté.
Mais c'est ce que tu me disais sur le sugar dating.
Oui.
Pour toi, il y a une forme de vice. C'est toi qui as utilisé ce mot.
Alors, oui. Alors, je l'ai utilisé pas exactement pour ça. C'est-à-dire que quand j'évoquais mon goût, en tout cas pour le sugar dating, je disais que j'aime tout ce qui titille un peu l'immoralité. Mm-hmm. En tout cas, ce qui est considéré immoral dans la société actuelle. Et j'ajoutais à cela que j'aime aussi des fois ce qui titille le vice. Mais ça n'est pas en lien avec
d'accord.
le sugar dating.
Ok. Merci pour la précision.
Je t'en prie.
Et donc, du coup, ça veut dire que tu vas voir ce type de sexualité?
Non. Alors, je sais que ça existe.
Ok.
J'ai forcément découvert, donc je m'y suis intéressé, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça.
T'as pas un appel du corps par rapport à
ça ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Alors, quand tu parles de BDSM, etc., moi, je ne suis pas du tout pour la souffrance ou pour ce qui peut faire mal.
Alors là, j'aurais mes invités à droite. Je pense à toi, Gilles, qui te dirait que ce n'est pas de la souffrance.
Évidemment. Alors...
Ce n'est pas
Il y a des pratiques qui ne constituent pas de la souffrance, évidemment. Et puis même, la souffrance peut ne pas en être une, puisqu'elle est constitutive de plaisir. Bon,
lui-même...
c'est un débat philosophique.
Ah bah, Gilles, quand tu veux. Ok, donc tu as quand même cette curiosité intellectuelle de comprendre, de voir, de...
Tu ne peux pas comprendre, de toute façon. Enfin, tu ne peux pas comprendre. Tu peux découvrir, tu peux envisager, voir... comprendre, tu ne peux qu'accepter finalement. Parce que comprendre, si c'est pas ton truc, si t'es pas prédisposé à, tu ne comprendras pas. Mais il faut pas s'en tenir à ça, il faut accepter. Voilà. Donc moi j'accepte que ce soit là, je ne comprends pas tout, mais en tout cas je sais que c'est là, je vois comment c'est fait. Voilà. Donc,
Et c'est pas que ce soit le milieu du BDSM ou d'autres, est-ce qu'il y a des domaines qui t'appellent ou qui peut-être un jour te séduirait assez pour que tu t'y adonnes ou en tout cas que tu ailles glisser, tu vois
Ah mais pourquoi pas ? Pourquoi pas finalement ? À partir du moment où je respecte mes limites, parce que je les connais, donc je reviens à la douleur, à la souffrance.
Voilà, et l'hygiène.
Exactement.
Donc ça exclut quelques petites pratiques.
Mais oui, une fois que ça s'est clarifié, pourquoi pas découvrir d'autres pratiques, bien sûr.
Ce serait de ton fait, tu penses ?
Peut-être avec certaines personnes.
Voilà.
Peut-être. Mais dans ce cas-là, ce serait... Alors, si on en revient au sugar dating ou homme de compagnie, il faudrait peut-être qu'on me le propose.
D'accord.
Je ne prendrai pas forcément l'initiative, mais j'accepterai très probablement. En revanche, je prendrai l'initiative dans un contexte intime de ma vie à moi.
Mmh.
Voilà.
Je comprends. Est-ce que dans ta vie à toi, il y a de la place aujourd'hui pour une relation sentimentale ?
Ah oui.
Et j'imagine que le partenaire avec lequel tu aimerais, voilà, enfin avec lequel tu aurais une histoire, devrait accepter ce pan de ton activité.
Alors oui, c'est une question qui se pose. Il y a la question de l'officialisation ou non. Ce qui reviendrait à mener une double vie, non pas deux vies. C'est à nouveau différent. Je te vois venir.
La nuance. Toujours la nuance.
Mais c'est la question se pose. Peut-être que la personne, si tu tomber amoureux ne se contrôle pas. Donc si tu tombes amoureux et réciproquement et que cette personne ne peut pas comprendre, que faire finalement ? Est-ce que tu arrêtes ? Est-ce que tu continues à cacher cette activité ? Que faire ? Donc je pense, on ne peut pas obtenir de réponse si on n'est pas finalement face au fait.
Mais parce que ça a l'air d'être tellement quelque chose d'important dans ton épanouissement personnel que j'imagine que ça te coûterait d'arrêter.
En termes de découverte, probablement. Alors dans mon épanouissement, oui, mais ça, je peux aussi le voir comme quelque chose de transitoire. C'est une étape de ma vie.
Bah, ça allait être ma question d'après. Est-ce que effectivement, tu t'es, comme tu es quelqu'un qui classe les choses et les range bien, est-ce que le sugar dating est effectivement pour toi une transition ou tu ne t'es pas donné de limite?
Non, je ne me donne pas de limite justement. Parce que ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Tout dépendra de la relation et tout dépendra de ce qui arrivera dans ma vie.
Et ce qui était intéressant, ce que tu m'as dit, c'est que tu n'as pas besoin d'argent.
Non.
Parce que souvent, dans les merci et les médias et merci les articles qui te titrent la prostitution étudiante, on a vraiment l'impression souvent que les gens qui effectivement ont ces échanges-là de leur personne, qu'elles soient tarifées pour une prestation sexuelle entre guillemets basique ou des échanges, on va dire, plus denses, on pense souvent que la personne est dans le besoin.
Oui.
Et c'est intéressant ce que tu me dis, c'est que toi, tu n'as absolument pas besoin d'argent, mais tu avais envie d'explorer ça.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on en revient à dire que la démarche dépend de chacun, finalement. Certaines personnes ont besoin d'argent et le font, et d'autres, comme moi, n'en ont pas besoin, mais aiment découvrir ces environnements et aiment ce type de relation, finalement. Mais ça se ressent aussi en face, parce que, sans entrer dans l'aspect psychologique, les personnes qui recherchent des sugar baby, ou des escortes, ou des hommes de compagnie, ne se satisfont pas nécessairement avec quelqu'un qui fait ça pour l'argent. Parce que ça se ressent. Tu peux tomber sur quelqu'un qui a un physique incroyable, tu peux tomber sur quelqu'un qui répond à toutes tes attentes visuelles. Bon, ça va tout de suite se sentir si cette personne va t'apporter quelque chose à un autre niveau. Et je pense que quand tu fais la démarche de l'autre côté, en recherchant quelqu'un, tu veux bien plus qu'une relation simple, en fait.
Je comprends. C'est là où, effectivement, tu te dis que toute la beauté de l'humain, elle est dans la complexité des relations.
Oui. Alors, oui et non, en fait. Parce que je pense qu'on rend toutes les relations compliquées. Mais elles ne le sont pas tant que ça. Je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté. Voilà. Si on est honnête, peut-être que ça va rendre la vie un peu plus fatale. Bon, voilà.
Parle à une utopiste, c'est compliqué d'entendre
ça. Ah,
ça
y est, la friction va se ressentir.
Parce
que tu parles à un fataliste, là.
Mince.
Bon, au revoir.
Il faut de tout.
Non, il faut de tout.
Mais tu as raison.
Mais je veux dire, on envisage le monde comme il n'est pas. Et on sait qu'il n'est pas ainsi. Donc pourquoi continuer à se perdre dans des rêves et des utopies, finalement, alors qu'on peut filer et sans aller forcément droit au but, en passant par quelques chemins de traverse, d'accord,
pour
romancer un peu la chose, exactement. Mais oui, il faut être honnête et accepter les choses, finalement. Donc, c'est pas tant une question de complexité. Bon, je n'ai aucune légitimité à m'exprimer sur ces concepts, sur la théorie. Mais oui, c'est compliqué parce qu'on décide de les rendre compliqués. Par nature, il ne me semble pas compliqué, ces rapports.
Très bien. Est-ce qu'il y a une anecdote comme ça, pour parler un peu plus du concret, que tu pourrais partager avec un de ces messieurs que tu as rencontré?
Une anecdote un peu marrante.
Marqué, une situation un peu cocasse, tu vois, qu'on puisse un peu aussi se figurer que tu es un être de chair et pas que de la matière grise.
Bon, disons qu'il y en a deux, on peut dire. La première serait un échange avec quelqu'un qui était fétiche des maillots de bain. Donc on s'est mis à échanger. Donc c'était un premier
maillots de bain. Exactement. C'est la première fois que j'entends ça. J'adore
des maillots de bain et des piscines publiques. Ça... Quelques micros par-ci par-là. Mais et on s'est mis à parler pendant 45 minutes puisqu'il était en Angleterre et il me pose beaucoup de questions sur comment fonctionnent les piscines publiques à Paris, comment sont vêtus les maîtres nageurs. Voilà, donc pendant 45 minutes, la discussion n'a tourné qu'autour de ça. Des maillots de bain et des maîtres nageurs dans les piscines publiques de Paris.
Ok.
Donc ça, c'est une chose. Et une autre fois, je me baladais justement avec un monsieur. Et dans la rue, on tombe sur sa mère. Voilà. Donc,
fin d'histoire. Et comment il te présente?
Enfin, comme un ami, forcément.
Comme un ami.
Mais,
t'avais combien de différence d'âge entre vous deux?
Alors, pas tant que ça. Je pense qu'on devait avoir une petite vingtaine d'années.
Okay.
Donc la mère devait avoir 70-75, mais bon, toute sa tête, toutes ses dents, donc capable de tout comprendre, théoriquement. Donc voilà, présentation comme un ami. Je ne sais pas si elle savait ce que son fils faisait ou pas. Ouais, mais...
Dans ces milieux, sans faire de, tu vois, de caricature, ils n'en ont jamais reparlé.
J'ose espérer.
Super. Ellie, ça va faire plus d'une heure qu'on parle.
Déjà.
Oui, ça passe vite.
On ne voit pas le temps passer.
Mais je sais. Qu'est-ce que tu voudrais dire comme mot de la fin de cet entretien qui était excessivement enrichissant et je te remercie. Comment tu pourrais conclure cet entretien ?
Ce serait intéressant de parler un peu du futur en recontextualisant toutes ces activités et en essayant d'œuvrer pour ôter le tabou qui est derrière, finalement. Puisque, alors déjà on est en France, l'argent est un tabou en France. À partir du moment où on en a, où on commence à en avoir, on est ciblé. Ça, c'est une chose. Mais vouloir en obtenir, alors je parle de l'argent, mais bien évidemment tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, comme les échanges, l'enrichissement intellectuel, etc. Vouloir les obtenir d'une quelconque manière ne devrait pas être un frein, finalement. Ça devrait être bien plus démocratisé. Et ce serait bien, justement, que les gens s'ouvrent un peu à des pratiques qui ne sont pas les leurs, qui essaient de comprendre ce qui ne leur a jamais été inculqué, ce à quoi ils n'ont pas été initiés, de s'ouvrir l'esprit.
Tu sais, Jacques Brel disait « Il n'y a pas de gens bêtes, il n'y a que des gens paresseux ».
Oui.
Et je pense qu'effectivement, quand tu ne cherches pas et quand tu n'es pas curieux, c'est comme ça que l'ignorance... Et du coup, l'intolérance, etc. existe.
Oui, exactement. Alors, sur sentiment de peur aussi.
Bien sûr.
On va faire le parallèle avec la situation sanitaire dans ce moment.
Voilà.
Allez hop, ça c'est dit. Mais oui, ce sentiment de peur contribue aussi au fait de ne pas vouloir s'ouvrir à d'autres horizons. Mmh. Et de considérer la situation actuelle comme actée, comme figée, alors que pas forcément.
Mmh. Mais je te remercie infiniment.
Merci à toi.
Merci infiniment à Ellie de s'être confiée à ce micro. Merci pour toutes ses explications, sa gentillesse, sa politesse. C'était vraiment un plaisir que de partager ce moment avec toi, Ellie. Merci à vous pour vos écoutes toujours plus nombreuses, vos retours, vos mails. Toute cette nourriture et cette bienveillance font du bien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.